Deuxième partie. Il y a un mois que nous vivons ensemble, tous les trois, car je suis un ami et pour rien au monde, Timkvik ne serait séparé de moi. Il est devenu plus affectueux encore. Son bonheur s'épand sur moi. Chose étrange mais vraie, je ne suis pas jaloux. Pourquoi et comment? Parce qu'elle m'est indifférente. Je ne l'aime point, je ne la regrette pas, je ne la hais pas. Cela est bizarre. Quand je la regarde, je la vois toujours aussi belle, mais je ne me souviens plus. Le jour du mariage, tout s'est brisé. Le lien qui s'était formé, que j'avais formé entre elle et moi, s'est rompu. Il me semble qu'elle ne vit pas, qu'elle est morte ce jour-là, et qu'il a épousé un cadavre. Celle à laquelle ma pensée s'était rivée a cessé de vivre ce jour-là. Celle-ci n'est plus celle-là. Et c'est justement cette morte que j'ai à venger. Tenez, elle vient de me serrer la main. Les doigts d'une statue m'auraient fait plus d'effet. Et je souris en la regardant. Artistiquement parlant, elle est vraiment fort jolie. Elle est bonne, spirituelle. Je regarde, j'écoute froidement. Pas une fibre ne tressaille en moi. Encore, il vient de l'embrasser devant moi. J'ai trouvé qu'il avait bien fait. Le baiser m'a même semblé froid. Est-ce qu'il saurait que, croyant donner un baiser à une femme vivante, il n'embrasse qu'un cadavre? Oh, je ne le voudrais pas. Sois heureux, très heureux, aime-la de toutes les forces de ton âme. Le jour de l'expiation sera d'autant plus terrible que ta joie aura été plus longtemps profonde. Premier point acquis, je ne puis empêcher ce bonheur. Certes, il me serait facile de jouer cette partie ridicule de troubler sa confiance, mais que ce serait mesquin. Combien je préfère qu'il se complaise dans sa félicité. Second point, je ne suis pas prêt. Ah, c'est que haine a pour corrélatif vengeance. Et la vengeance est à la haine ce qu'est la possession à l'amour. C'est l'épanouissement du moi dans la plénitude de la passion assouvie. Et je ne sais point encore comment je me vengerai. Non, sur mon âme, je n'en sais absolument rien. Plus encore, je n'y veux point songer. Ce serait trop tôt, en vérité. Je risquerais de me laisser entraîner à une exaltation qui serait nuisible. Pas de zèle, comme disait je ne sais quel ministre français, pas de zèle dans ses propres affaires. Se hâter, c'est se tromper. Oh, j'y réfléchirai longuement. Je suis encore sous l'empire d'une certaine colère. Mauvaise condition. J'ai besoin d'étudier la vengeance, d'en saisir la véritable esprit, l'essence, de bien comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle peut être. J'y arriverai, mais je me livrerai à ce travail d'analyse que le jour où, pensant à ce qui s'est passé, je trouverai mon pouls calme et ma tête froide. Je n'ai rien oublié. J'écris aujourd'hui seulement ces scènes d'autrefois et je me repais de ces souvenirs. Dire que je trace ces lignes avant ayant entre mes mains la plume qu'il tenait, lui, quand il m'a laissé sa fortune, que je suis assis dans son fauteuil à lui, que je m'accoude sur sa table, que tout à l'heure je vais me coucher dans son lit et que je mourrai calme et souriant dans les draps à la marque. Songer à tout cela, puis par un retour subit me rappeler ma vengeance. Allons, je me sens heureux, sur ma parole. Mais reprenons, que disais-je? Ah oui, nous vivions à trois. Cela dura 2 ans. J'étais calme, et un matin je m'interrogeais moi-même, j'étais mûr pour l'étude projetée, je me permettais de songer à la vengeance, j'y pensais. Qui m'eût regardé ne m'eût plus reconnu. Il est une précieuse faculté que peu d'hommes possèdent à un degré utile. Il s'agit, étant donné une préoccupation douloureuse qui vous envahit et vous obsède, de vous débarrasser tout à coup, par un effort de volonté, de cette obsession, de secouer cette préoccupation et de dire, pour cet instant, je n'y veux plus songer. Au premier temps, cette abstraction de soi-même est difficile à opérer. Eh bien, voici comment je procédais. Alors que la pensée haineuse avait rongé mon cœur durant toute la journée, je me disais, quand la nuit venait, « Je veux écarter cette pensée jusqu'au matin. » Et au bout de quelques jours de persistance, j'avais réussi. Le soir venu, cette pensée disparaissait, s'assoupissait, pour s'éveiller de nouveau le lendemain à heure fixe. Lorsque j'eus obtenu ce premier résultat, je provoquais cet oubli pour une, pour deux journées, pour une semaine, pour un mois. Et maître de ma mémoire, comme si j'eusse poussé un ressort ouvrant ou fermant à mon signal une case de mon cerveau, je restais aussi longtemps que je le voulais débarrassé de cette obsession. Pourquoi ai-je tenté cela? Oh, sur mon âme, c'était bien calculé. J'avais compris, ceci était facile à prévoir, que la pensée obsédante entrerait peu à peu, tarière invisible dans tous les recoins de ma nature physique, que corps et cœur, comme le bois rongé par les termites, se cribleraient de blessures imperceptibles et qu'un jour viendrait, ou maladie ou folie, tout l'être tomberait en poussière. Malade, faible, incapable, impuissant, oh, lorsque cette pensée me vint, oh, j'eus un effroyable frissonnement. Si j'allais mourir avant de m'être vengé, oh non, cela n'était pas possible, cela ne devait pas être. Je n'avais pas le droit de mourir, si j'étais déserté, ou bien si j'étais devenu fou, si les parois de mon cerveau s'étaient effondrées sous la pression du désespoir, alors qui sait? J'aurais peut-être oublié, c'est-à-dire pardonné. Par l'enfer, cette idée de folie était sinistre. Aujourd'hui, je suis tranquille. Il y a une année, oui, 12 longs mois que je n'ai pensé. Pas une fois l'aile du souvenir n'est venue effleurer mon cerveau. Pas une fois, en le regardant, en la voyant près de lui, je me suis rappelé... puissance de l'homme sur l'homme, et quel admirable triomphe. Mais aussi quel résultat! Ce matin, j'ai entrouvert doucement, oh, si doucement, la porte de mes souvenirs. Savez-vous, j'avais presque peur de le trouver mort, ce souvenir qui, depuis toute une année, n'avait pu s'ébattre à l'aise. Oh non, sur ma vie, il n'est pas mort. Je l'ai trouvé accroupi sur lui-même dans une des cases les plus obscures de mon cerveau. Sur un signe, il s'est levé. Mieux, il a bondi. Il est debout, il se dresse, épouvantable de haine et de résolution. Et il semble me demander, « Mais est-ce que l'heure est venue ?»« Peut-être. » Ces 12 mois de repos voulus ont fait de moi un autre homme. Je suis fort en vérité, j'ai engraissé. Mon pouls a cette régularité mathématique qui sonne juste au cadran de la santé. Ma tête est calme, mon cerveau est froid. Je suis apte à commencer l'œuvre de vengeance. Sois tranquille, ô souvenir, dès aujourd'hui tu ne me quitteras plus. Allons, je me suis convaincu que cette mort doit être effroyable. Il s'agit de commencer l'étude. Mais par quoi? Par le sujet d'abord. Il est évident que je dois avant toute chose savoir s'il est apte à souffrir et jusqu'à quel degré il peut supporter la souffrance. Bourreau d'un homme, je ne puis commettre cette imprudence de l'étendre sur le chevalet avant de m'être assuré de la puissance de sa forte résistance. Voyez-vous, s'il mourait au premier tour d'écrou, oh la belle affaire! Et comme alors je retournerai contre moi-même cette énergie de torsionnaire qui triple aujourd'hui ma vitalité? Oh, quelle parole viens-je de prononcer? mon énergie de tortionnaire. Mais je ne la connais pas. Nouvelle étude à faire. Oui, il y a en moi le désir du mal, mais il me manque la notion de ce mal et la certitude de ma propre force. Autrement dit, qu'est-ce que le mal au point de vue de la douleur humaine? Quelle est la ténacité de mes nerfs et de mon cœur et de mon cerveau en face de la souffrance d'autrui? D'où décomposition nécessaire de la tâche à accomplir. Que peut-il souffrir? Que puis-je faire souffrir? Quelle est la souffrance à appliquer? Mais procédant ainsi par analyse, je ne puis faire fausse route. Ah, l'enfer vient à mon aide. Sur mon âme, je ne croyais pas qu'il me fût donné de pouvoir si rapidement procéder à une première expérience. Oh, il souffre, il va souffrir. Je vais assister à ses premières palpitations. Prêtez l'oreille à ses premiers grésillements de son âme sous le fer rouge de la douleur. Elle se meurt et il l'aime. Comment ai-je su cela? Qui me l'a dit? Personne. Et cependant, alors que seul je réfléchissais, la tête plongée dans mes deux mains, calculant et rêvant, et cependant j'ai tout à coup su qu'elle se mourait, qu'il souffrait. Et puis, chose étrange, cette idée de grésillement qui subitement avait surgi dans mon cerveau. Mû par une force dont je ne pourrais, malgré toute ma puissance de concentration, analyser l'essence, je me suis élancé hors de ma chambre, j'ai bondi sur l'escalier et là, au premier étage, j'ai ouvert la porte. Horrible! Il n'y avait pas un cri, pas un souffle, mais un groupe de désespérés. Elle était étendue à terre, lui accroupi, les deux bras serrés autour d'elle. Quand il m'entendit, « Vite, me dit-il, une couverture !» Une horrible odeur de chair brûlée et de vêtements roussis me saisit à la gorge. J'obéis cependant et lui jetai une couverture de laine. Il l'enveloppa et la serra fortement. Je voulus m'approcher. « Laisse-moi faire !» reprit-il d'une voix creuse qui semblait n'avoir plus rien d'humain. Alors, avec une force qui ne m'étonna pas, il souleva ce pauvre corps inanimé et vint le déposer sur le lit. Puis il se redressa, regarda cette femme et tomba foudroyé sur le parquet. Elle était morte, sans doute. Scène étrange. C'était le soir, la nuit n'était pas encore complètement venue, combattant cette obscurité grandissante à chaque minute. Mais dans ce foyer, de la houille à un monceau, la flamme jaunâtre léchant les angles noirs et jetant sa lueur fauve sur ce plancher où je voyais un homme renversé, et sur le lit une forme que je ne distinguais pas, mais que je savais être elle. Je voulus voir cette scène terrible, et en une minute j'allumai une lampe. Dans ce court intervalle, je raisonnais et me disais « Il doit y avoir là quelque chose d'effroyable. Songe à ne pas frissonner. »
Approchant la lampe, je regardais le visage de la femme. Je ne frissonnais pas. Était-ce bien un visage? Non, une boursouflure, une tuméfaction sanguinolente. J'arrachai la couverture. Et je compris tout. Elle était morte, morte brûlée. Elle était vêtue d'une robe de chambre légère. Évidemment, elle était à sa toilette, mais de cette robe, il ne restait que des lambeaux. Le feu avait saisi cela par le bas, l'avait happé, léché, dévoré en une seconde, et en une autre seconde, la fournaise faite masque s'était appliquée sur ce beau visage, devenue chose hideuse. Les yeux disparaissaient sous la turgescence des paupières bouffies en cloques. les deux lèvres, les joues, le front n'étaient qu'ampoule. Les ailes du nez s'étaient recroquevillées sous le baiser de la flamme, et les dents apparaissaient à travers les crénelures de la bouche épatée. Et du bas des vêtements de cette masse noirâtre de vêtements carbonisés, sortaient deux pieds nus, blancs comme s'ils eussent été taillés dans le plus pur marbre de Carrare, deux pieds d'enfant, qu'on eût baisés, que je baisais, moi, en m'inclinant doucement et souriant à cette suprême jouissance de lui donner à elle le dernier embrassement qu'elle dut recevoir. Car nul ne songerait qu'au visage, et chacun reculerait épouvanté. Comme un voleur tremblant d'être surpris, je rejetai la couverture sur ce corps détruit, et je ne frissonnai pas. J'appelai un domestique et envoyai chercher un médecin. Puis je restai debout auprès de ce lit, regardant toujours ce visage turgide, cette effroyable grimace qui semblait s'être pétrifiée dans une suprême crispation. Et lui, toujours étendu, sans mouvement, frappé, mais non pas à mort. Oh, je m'en étais assuré, son sang courait comme un flot dans ses artères. La vie se révoltait contre la prostration. Je savais qu'il allait revivre pour souffrir, d'abord par elle, puis par moi. Car j'étais bien décidé, et l'œil fixé sur ce cadavre informe, je me demandais ce que pouvait être la torture du feu, et si je ne lui appliquerais pas. Preuve évidente que je ne faiblissais ni ne voulais faiblir. J'eus d'abord l'idée de le rappeler à lui-même pour qu'il commençât plutôt à souffrir, mais je renonçai à cette pensée. Une secousse aurait pu, en détendant trop brusquement les ressorts de son organisme, provoquer des larmes. Et les larmes soulagent. Je ne tenais pas à ce qu'il souffrît jusqu'à ce qu'il me montrât de quelle manière se comportait, et se comporterait par conséquent, chez lui la faculté souffrante. Il était de mon intérêt de suivre les phases de la crise en la laissant se développer naturellement. Tout à coup, il fit un mouvement. Un de ses bras se détendit et battit le vide, puis retomba sur le bord du lit. Or, un bras de la morte pendait le long de ce lit, et justement, au hasard que j'observais, sa main à lui, froide et sèche, saisit la main sanglante de la femme. Ses doigts à elle avaient été rongés par la flamme et des lambeaux de chair se détachaient de l'os. Il sentit cela, une commotion convulsive l'agita des pieds à la tête. Un souvenir intuitif l'avait envahi. Il ouvrit les yeux, regarda cette main d'un air hébété, puis il se dressa sur ses pieds comme si ses reins eussent été d'acier et se jeta sur le corps. Je levai la lampe. Au moment où son visage à lui s'approcha de son visage à elle, son cou se rejeta en arrière. Il eut horreur. Il jeta un cri, un râle, se recula, bondit à travers la chambre, se jeta contre les murs, frappa les meubles. Cette nature forte était en proie à l'épilepsie de la douleur. Il écumait, meurtrissait ses poings aux sculptures de chêne, brisait les chaises, tout cela inconsciemment, hystériquement. Il se trouva en face de moi et me regarda en face. Déchiffra-t-il un instant, un seul, l'hiéroglyphe de ma pensée? Sans doute, car il leva le poing comme pour m'écraser. J'avais failli me trahir. Je n'étais pas encore arrivé à étouffer absolument la vérité sous un masque d'emprunt, ou plutôt à rattacher assez rapidement les cordons de ce masque dénoué par la main de l'imprévu. Mais je criais « Mon ami, mon ami !» Il reconnut ma voix et se jeta dans mes bras en sanglotant. Moi, sans avoir l'air d'y prendre garde, je me dérangeais doucement, de telle sorte que son regard se trouva dans l'axe du visage effroyable. Puis doucement encore je lui relevai le front. Il vit encore cette chose. Je sentis tout son corps se tordre sous cette impression dont rien ne pouvait reprendre, rendre l'horreur. Le médecin entra. Turnpike se tourna tout à coup, se calma et regarda le praticien qui marcha vers le lit, puis s'écria « Mais cette femme est morte, il n'y a rien à faire !»«
Rien ?»
répéta machinalement Turnpike. « Mais comment cela est-il arrivé ?» demanda le médecin. Je pris la parole, racontai ce que j'avais vu et expliquai ce que je supposais. « Voilà, dit Turnpike. Oh, comme je l'écoutais, sa voix ne corporait-elle pas toute la gamme du désespoir et ne révélait-elle pas la contexture intime de l'instruiment ? Elle était là, dans mon cabinet de travail, à côté. La porte était entr'ouverte, la nuit venait. Je cessai de lire et, machinalement, mes yeux se portèrent sur l'entrebâillement de la porte entr'ouverte. Je vis une lueur rouge, je ne compris pas d'abord. J'entendais dans cette pièce un trépillement, rien de plus. Je l'avais laissé un quart d'heure auparavant en se mettant à sa toilette. Et tout à coup, une horrible idée traversa mon cerveau. Le feu ! Je m'élançai, oh, monsieur ! Jamais je n'oublierai cela. Au milieu de cette chambre, tenez là, il y avait une colonne de feu qui tournait, mais tournait rapidement sur elle-même, et au milieu de la flamme, un corps qui se débattait contre le feu qui mordait et déchirait. Pas un cri, pas un bruit, deux pieds qui battaient le plancher, c'était tout. Je bondis, oh, comment je fus, je ne saurais pas le dire. Je ne voyais pas, je sentais la flamme qui brûlait mes mains et mon visage. L'horrible lueur s'éteignit. La femme était à terre et j'étouffais de mon corps les derniers soubresauts de la flamme. Alors, j'aperçus que Simpson était entré. Je portais le corps sur le lit et depuis ce moment, je ne sais plus, non, je ne sais plus. Le médecin répondit d'une voix calme. « Oh, que c'est beau d'avoir cette habitude d'être calme. »«
Cela arrive souvent. La pauvre femme se sera trop approchée de la cheminée et le feu aura pris à ses vêtements. »«
Faut aller déclarer le fait à la police. »
Turnpike mit ses mains sur son visage. Alors je vis que le sang coulait entre ses doigts.
« Tu es blessé ? » m'écriai-je.
« Ah, en effet, dit le médecin. »
Et sans plus s'émouvoir, il demanda de l'huile, des bandes de toile, et fit un pansement. Turnpike semblait ne rien sentir. Il tourna la tête vers le cadavre, et sa poitrine se soulevait en contractions spasmodiques.
« Monsieur, me dit le médecin à voix basse, tandis que je le conduisais, seriez-vous assez bon pour me faire payer ma visite ? Vous savez que je ne suis pas le médecin de la maison. »
Je lui mis $5 dans la main, il regarda, sourit, et s'en alla.
Décidément, il sera difficile de faire souffrir cet homme. Quelle force ! Après les premières convulsions de la douleur, son être a réagi. Son énergie a eu raison de ses tortures. Il est calme. À l'enquête, il répond froidement, donne les détails d'une voix assurée, douce même. Il a passé la nuit auprès du cadavre. Il n'a pas voulu qu'on couvrît son visage et a semblé se complaire à rechercher sous la dévastation de la mort les souvenirs radieux de la vie. J'ai veillé aussi, par amitié, a-t-il cru. Tant mieux, il ne faut pas qu'il doute de moi. Car il m'appartient tout entier. J'ai repris moi-même toutes les circonstances de l'accident, je l'ai interrogé, j'ai insisté sur les points les plus pénibles, j'ai pressé tous les ressorts de ses lames à 1000 tranchants. Il est resté impassible. Et cependant, il souffre horriblement. Je vois cela dans certains tressaillements de ses fibres.
C'est ce qu'il faut, le sujet est bon. Il est apte à souffrir parce qu'il peut beaucoup endurer. J'ai en face de moi un adversaire digne de ma haine et de ma volonté. On a emporté la femme. Ce qui est vraiment curieux, c'est que je n'ai pas senti passer en moi le moindre souffle de regret. Regretter quoi? Est-ce que cette femme était à moi? Est-ce qu'il y avait entre elle et moi aucun lien commun? Aujourd'hui, non, non. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est morte pour moi. Il y a 2 ans que je l'ai couchée de mes 2 mains dans la tombe de mes souvenirs, que je lui ai fait de mes larmes un suaire et que mon serment de vengeance a été son hymne de deuil. Nous rentrons à Greenhouse, seuls tous deux. Oh, sur mon âme, que je ressens une forte tentation de le tuer. Oh, il faut que je fasse appel à toute ma raison. Il est assis en face de moi, la tête dans ses mains. Il ne parle pas. Évidemment, il se trouve dans cet état d'engourdissement qui accompagne la pléthore de la douleur. Étrange situation, en vérité, dont je me souviens avec une âcre jouissance. Il était là, sous mes yeux, à portée de mes mains. Je pouvais le saisir à la gorge, enfoncer mes ongles dans ses chairs, et je ne l'ai pas fait. Et j'ai permis que, revenu à lui, il me parlât d'elle, il me détailla ses perfections, qu'il me dit combien elle était belle, combien ses baisers étaient doux, qu'il évoqua dans cette chambre, encore murmurante de leurs mots d'amour, ses rêves qui sont la vie. J'ai permis tout cela. Je suis resté souriant. J'ai approuvé de la tête et du regard et du geste, comme si je ne savais pas ce qu'elle était, ce qu'elle eût été pour moi. Non, il faut bien que vous me croyiez. Non, je ne l'ai pas tuée, mais comme je me cramponnais à l'avenir compromis, comme je notais une à une mes propres tortures, semblable à l'usurier avare qui inscrit des billets à ordre qu'on lui a souscrit. 6 mois s'étaient passés et nous nous disposions à partir pour un long voyage. Turnpike avait besoin de se distraire. La douleur s'était déjà émoussée. Déjà, insulte nouvelle qui m'était faite. Car toute ma vie à moi appartenait à celle qui n'était plus là. Et lui, au bout de 6 mois, il y songeait à peine et cherchait les moyens de n'y plus songer du tout. Quelques jours avant notre départ, nous fûmes témoins d'une scène étrange, et si je la relate ici, c'est qu'elle provoqua de la part de mon ami une phrase à laquelle je ne pris pas garde tout d'abord, mais qui me revint en mémoire plus tard, alors qu'approchait l'échéance terrible. Voici ce qui se passa. Nous trouvions à Lexington, or ce jour-là, on jugeait un grand criminel. Le crime était horrible par lui-même, mais l'esprit public était d'autant plus excité contre le coupable qu'il appartenait à la race nègre. Sam Welch était depuis sa naissance esclave dans la plantation de M. Timber, l'un des plus riches et célèbres négociants du Kentucky. L'esclave avait, paraît-il, été cruellement frappé par la femme de Timber. Il avait cela quelque 10 ans. Cette femme était allée depuis cette époque en Europe. Mais son mari était mort et avait par son testament donné la liberté à un certain nombre d'esclaves, parmi lesquels Sam Welch. Sam accepta ce bienfait avec indifférence, et quoique libre, il resta sur la plantation. On n'y prit point garde, attribuant à la force de l'habitude cette insouciance de la liberté. Mais Sam obéissait à une pensée longuement préméditée. La veuve de Timber, avisée à Paris du décès de son mari, revint en toute hâte. Sam se fit désigner au nombre des esclaves qui devaient aller au-devant de l'arrivante, et au moment où elle descendit de voiture, Sam s'avança respectueusement, le dos à demi courbé, puis quand il fut auprès d'elle, il se redressa, et levant le bras au-dessus de sa tête, d'un seul coup de son poing fermé, il assomma la femme qui tomba morte. C'était un athlète que Sam Welch. On s'empara de lui aussitôt. On ne pouvait pas croire que la femme eût succombé. Elle lui riait en montrant ses dents blanches et disait en ricanant « Bassin est morte, elle m'avait frappé, je l'ai frappé !» On l'enferma dans la prison de Lexington, puis on lui fit son procès. Quoique affranchi, ce n'en était pas moins un nègre et la justice pouvait et devait être expéditive. Elle le comprit. 8 jours après le crime, le juge se couvrait la tête du bonnet noir et Sam Wretch était condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. L'arrêt devait être exécuté le lundi suivant et le jugement avait été rendu le mardi. Et c'est ce jour-là que nous étions à Lexington pour affaire. On ne s'entretenait que de Sam Wretch. Une vague agitation courait dans l'air comme un souffle de colère mal contenu. 6 heures sonnèrent. Alors, du haut de la rue où se trouvait notre hôtel, nous entendîmes surgir tout à coup une rumeur vague, longue, sinistre. Il faisait nuit, mais des torches jetaient sur les maisons leur lueur jaunâtre et lugubre. Puis un cri « Lunch! Lunch !» J'avais compris. Turnpike me secoua fortement le bras. C'était la foule qui courait à la prison. Au nom de la loi de Lynch, elle allait, sans se préoccuper des délais légaux, exécuter l'arrêt de mort. La prison était à quelques yards de notre habitation. Machinalement, nous descendîmes. Alors passa devant nous une trombe humaine, masse noire, d'où s'échappaient des hurlements, ou l'obscur que dominaient les torches comme des langues de feu. C'était un vertige qui roulait, et tout cela se poussait, se heurtait, se renversait, meute ardente lancée à la curée de mort. La prison dressait sur la place ses murs muets et lugubres. Inexorable, impassible, elle gardait le prisonnier. Puis sa façade sembla s'animer, vivre, comme ces corps corrompus sur lesquels courent des milliers de vermicules. C'étaient les hommes qui, des ongles, des poings, des haches et des pioches, s'attaquaient aux pierres immobiles. Une fenêtre s'ouvrit, le gardien parlementa. « Que voulait la foule ?»« Le prisonnier !»« Mais il était en sûreté !» Et aujourd'hui, il subirait son châtiment. « À mort !» hurlèrent les forcenés. Le gardien, qu'on n'entendait plus, protesta du geste, puis la fenêtre se referma. « la porte, le feu !» L'autorité restait neutre, mais il fallait se hâter d'agir. On entassa des broussailles devant la porte bardée de fer, puis on y mit le feu. Une épaisse fumée s'éleva devant la prison, mur contre mur. Une autre langue de flamme lécha l'édifice. Alors de l'intérieur s'élevèrent des hurlements et des imprécations. C'étaient les autres prisonniers qui croyaient eux aussi que la foule voulait les massacrer. « Sam Wretch ! Sam Wretch ! » Ils se sentirent rassurés. Seul le misérable effaré se blottissait au fond de son cachot. Insultant à ses murailles qui n'étaient pas assez épaisses, à ses verrous qui n'étaient pas assez forts. Quelques minutes après, la prison était envahie et Sam Wretch apparaissait sur le seuil, tenu par 10 hommes qui le menaçaient du poing. La flamme était éteinte, mais dans la porte béaient des ouvertures calcinées. Un homme lança sa torche au visage du malheureux qui se rejeta en arrière. On l'entraîna, il graissait des dents et criait. Voleur, hurlait-il, voleur de vie, j'ai 7 jours, je veux 7 jours, on n'a pas le droit de me tuer, assassin, lâche. Mais on tirait sur ce corps condamné, il était obligé de courir, il tomba. Quelqu'un le saisit par les cheveux et voulut le relever. Il resta à terre. Alors 10 mains s'avancèrent, le prenant au buste, aux épaules, au visage. Une de ses mains glissa dans la bouche de Sam qui mordit. Le doigt se déchiqueta et la main sanglante le souffleta. C'était bizarre, ce sang rouge et frais sur ce visage noir. Il était debout, il lui fallut encore courir. Et nous suivions, et la foule sortit de la ville et s'arrêta à un bouquet de bois. La lune s'était levée, une lune radieuse, souriant ironiquement de son masque blafard à cette scène d'assassinat. « Une corde, une corde !» Sam entendit ce cri, son corps se tordit. Il était vigoureux, le nègre. Il luttait. Un instant, des pieds et des poings, il fit un cercle autour de lui. Une seconde, oh, rien qu'une seconde, il dut avoir l'enivrante sensation de la liberté. Mais la meute se rejeta sur lui. Il sentit que tout était fini. Il devint inerte. Une sorte de grondement rauque sortait de son gosier serré. Quelque chose tomba auprès de lui. C'était le bout de la corde où se trouvait le nœud coulant. Un homme était monté sur l'arbre, avait passé la corde dans la fourche que formaient deux branches énormes, avait enlevé l'écorce pour que cette corde pût glisser. Alors on mit le nœud au goût du patient. L'autre bout de la corde, passant par la fourche, traînait à terre de l'autre côté. « C'est fait ?» demanda une voix. « All right !» répondirent ceux qui avaient assujetti le nœud. « Enlevons !» Et 10 hommes se pendirent à l'autre extrémité de la corde qui glissa sur la fourche de l'arbre comme sur une poulie. Le corps de Sam s'était affaissé. Il était étendu à terre. Alors on vit, sous la traction de la corde, la tête quittait le sol, puis les épaules, puis les cuisses. Là, le corps tourna sur lui-même. « Hardy !» crièrent les voix. Le corps lâcha terre et se haussa dans l'air. Il tournait toujours. La corde était passée au cou par une main expérimentée, car le nègre se sentait mourir et battait l'air de ses mains. Mais sous le poids du corps, on vit le nœud se resserrer par une secousse brusque, comme pour se mettre en la place nécessaire. « Stop !» dit quelqu'un. Samouache était pendu. Sa face se congestionnait et de ses lèvres épaisses sortait une sanie rougeâtre. « Quand détachera-t-on cet homme ?» me demanda Thornpike. « Dans 10 minutes ou un quart d'heure. » « Mais, reprit-il en frissonnant, s'il n'était pas mort, si on l'enterrait vivant. » Je le regardais, il était livide. Nous voyageons. Turnpike s'est lancé dans les grandes affaires industrielles. Il est très ingénieux, en vérité, il rendra, je n'en doute pas, d'immenses services au commerce des États-Unis. Il a déjà inventé une machine propre à la préparation du coton, très curieuse réellement, et qui lui a attiré de tous les points de l'Union les éloges les plus mérités. Sa fortune s'accroît. Il a en lui un besoin d'activité qu'il dévore. Souvent déjà, il m'a dit « Oh, maintenant que je suis seul, je vais m'adonner tout entier à la science. » Il est seul. Oh, sur mon âme, je ne sais s'il ne dit pas cela avec une certaine sensation de soulagement. On dirait parfois que l'accident qu'il a fait libre a comblé l'un des secrets désirs de son cœur. Ainsi, cet homme aurait tué mon avenir, aurait brisé toute ma vie, et il n'aurait pas même eu conscience de la valeur du trésor qu'il me dérobait. Mais non, c'est la prévention qui m'égare. Je l'ai surpris souvent, alors qu'il se croyait à l'abri des regards indiscrets, laissant couler le long de ses joues de grosses larmes, et regardant à travers l'infini un point obscur, lointain comme le souvenir. Je ne le quitte plus, il ne peut se passer de moi. Et moi, je ne puis me séparer de lui. Je le couvre du regard. Parfois, tandis qu'il rêve à ses combinaisons, je me place de telle sorte que je puisse, dans une glace, tenir mes regards fixés sur lui. et par l'exercice d'une étrange faculté, tandis que la vie de cet homme me ramène au point de départ de mon existence nouvelle, je bâtis machinalement mon avenir tel qu'il eût été s'il m'avait dit un jour « Je te présente ma fiancée. » Oh, quel resplendissement de joie, quelle lumière pleine et sereine s'épand alors sur toute cette vie rêvée. Il me semble que je l'entends, elle, me dire « Je t'aime ». Et il me semble qu'à force de soumission, de soins, de dévouement, je l'ai rendue digne de moi. Dans ces extases momentanées, je vis double. Il me paraît que mon être a grandi, que mes sensations sont quintessentiées. Je marche tout entier dans cet insondable abîme dont tous les échos redisent « amour, amour ». Mais cette impression ne dure pas. Par un violent effort, je me dégage de ces liens qui m'enchaînèrent et qui annihileraient ma volonté, ma force, mon énergie, et je le revois tel qu'il est, je me revois tel que je suis, et je la revois elle aussi, se tordant dans les suprêmes souffrances de l'agonie. Et par bonheur, je me souviens qu'il n'est pas permis à un être humain de torturer un de ses semblables comme cet homme m'a torturé. Je me souviens que j'ai une créance à recouvrer, que j'ai une balance à établir. Je me souviens que ma vie n'a qu'un but, qu'un objectif, qu'une raison d'être, la vengeance. Nous voyageons, nous visitons l'Europe, lui plein d'enthousiasme, froid et réservement, lui rapportant tout spectacle au besoin idéal qui l'étreint, moi ramenant toute sensation au but unique qui s'impose à mon âme. Il admire la cathédrale de Strasbourg. Moi, je mesure du regard la hauteur de la flèche et je me demande quelle doit être la souffrance de l'homme qu'un hasard précipite à travers l'espace et qui sent dans sa chute vertigineuse que ses membres se vont briser au pied de l'immense basilique. Dans Cheapside de Londres, dans la rue Montmartre de Paris, alors qu'il admire cette activité fiévreuse de 1000 véhicules, se croisant, se heurtant, se frôlant, alors qu'il songe à la dépense de forces intellectuelles et physiques que représente ce mouvement incessant, moi, je rêve à ce que souffrirait l'homme jeté sous les pieds de ses chevaux, écrasé par le roulement de ses 1000 roues, blessé, meurtri, pantelant. Dans les hauts fourneaux, je réfléchis à ce que ressentirait le corps humain jeté vivant dans les flammes inextinguibles. Dans les manufactures, je vois des membres déchiquetés, tressautant par lambeaux, aux élans de toutes ces roues débris sanglants, écrasés sous ces balanciers de fonte ou broyés sous ces leviers de fer. Dans les profondeurs des mines sombres, je devine le porion surpris par l'inondation, fuyant devant le flot qui fait irruption à travers les fissures du granit, s'élançant vers l'échelle de salut et sentant alors le flot qui lèche ses pieds, bondit à ses cuisses, grimpe à sa poitrine, puis bondit au-dessus de la tête, l'arrachant de son dernier asile pour le précipiter à la mort. Ou bien, je le vois, le mineur, confiant et frappant de son pic la pierre qui étincelle, redressant la tête au bruit sourd d'une explosion encore incomplète, comprenant que le grisou est là, invisible, menaçant, ouvrant ses bras de fer pour l'écraser, apprêtant ses tenailles de fer pour le martyriser. Tout à coup, effondrement, écroulement. L'explosion a eu lieu. La pierre a éclaté comme la coquille d'une noix dans un brasier. Et se jetant au-devant du fuyard, s'est faite muraille. Cloître dans cette impassée du travail, il mourra de faim, de soif et d'épuisement. Voyant tout cela, je m'adresse cette question, mais que lui ferais-je souffrir? J'étudie la littérature et l'histoire de tous les pays au point de vue des tortures. Quel autre sujet m'intéresse? Rien. Le grand poète de la France, Victor Hugo, eut une idée splendide. Son Claude Frollo précipitait des tours de Notre-Dame. Que serait-il tombé tout droit et que son crâne se brisa sur la dalle des rues?
Ce qui est vraiment admirable, c'est l'homme se raccrochant aux saillies de l'architecture, suspendu par un coin de sa soutane à la gouttière qui plie. Oh, admirable ce passage! Quasimodo n'eut eu pour le tirer du gouffre qu'à lui tendre la main. L'archidiacre haletait. Son front chauve ruisselait de sueur. Ses ongles saignaient sur la pierre. Ses genoux s'accrochaient au mur. Il entendait sa soutane accrochée à la gouttière craquer à chaque secousse qu'il lui donnait. Il se disait, le misérable, que quand ses mains seraient brisées de fatigue, quand sa soutane serait déchirée, quand ce plomb serait ployé, il faudrait tomber et l'épouvante le prenait aux entrailles. Ô grande et puissante haine que celle de ce nain bossu et louche! Quasimodo le regarda tomber. Jouissance profonde, complète, immesurée, le voir se tordre dans l'impuissance, désespérer avant la mort, c'est alors que le sonneur dut vivre dans la plénitude de sa haine assouvie. Bien curieuse aussi la vengeance de ce nègre dans le roman de Gensu, à Targul, je crois. Tenir l'ennemi là, sous ses yeux, sous sa main, l'insulter, le martyriser, et à l'heure suprême lui cracher au visage, tandis que le monde ne sait rien et que la foule applaudit au dévouement du tortionnaire. J'ai lu encore le Monte Cristo français. J'y ai noté plus d'un incident intéressant. Mais ce n'est point là de la vengeance humaine, et puis la puissance du bourreau rapetisse la vengeance. Ce qui est vraiment beau, c'est le petit, l'humble, le mesquin, le déshérité, s'attaquant des ongles et des dents à celui qui croit le dominer, et qui jusqu'à la dernière heure se suppose le maître, et qui n'est, à un moment décisif, que le misérable sanglotant sous la griffe de son ennemi. L'histoire n'est pas sans enseignement. Je n'ai point dû la négliger. J'aime la mort de Mateau dans le livre de Flaubert. Seulement l'atrocité même du supplice va contre son but. Mateau paraissait insensible. Puis tout à coup, il prit son élan et se mit à courir au hasard, en faisant avec ses lèvres le bruit des gens qui grelottent par un grand froid. Il a l'ivresse de la torture, comme ces martyrs chrétiens qui, le sourire aux lèvres, chantaient sous le fer des bourreaux. Ceci est mauvais. Bleriot est maître en l'art des supplices, mais il ne tient pas suffisamment compte des souffrances morales. Déchiqueter un corps, c'est bien. Taillader une âme, c'est mieux. Il faut que le supplice remplisse cette double condition. Il faut que des deux excès même s'élèvent inextinguibles jusqu'à la dernière seconde, la lueur d'espérance qui rafraîchit et réconforte l'âme du patient. Voici ce que l'histoire m'a présenté de plus complet. Matthias, empereur d'Allemagne, abolit dans ses états la peine de mort. Le condamné était conduit hors de la ville et là, attaché à un poteau, les bras et les jambes liés. La tête était libre. Mais du reste du corps, aucun mouvement n'était possible. Matin et soir, un gardien portait la nourriture du misérable et la lui faisait prendre. On défendait l'homme contre toute attaque de bêtes fauves ou des insectes. Mais il restait là, immobile, impuissant, jusqu'à ce que cette immobilité, cette impuissance, l'eût tué. Si ce Mathias haïssait le condamné, il devait être heureux. Et c'était auprès de lui, auprès de ce prédestiné de la souffrance, que j'étudiais ses rêves effroyables. C'est en lui serrant la main que je me demandais, sentant le sang battre dans ses artères, comment j'utiliserais cette vitalité au profit de ma haine. Bientôt je sus tout dans l'art infernal des tortures. J'étudiais successivement les auges de Perse et les tenailles de Damien et les cartèlements de Ravaillac. Je fouillais les archives de l'Inquisition et vis à Saragosse les débris de la Vierge de fer qu'on a couplés aux condamnés. Je touchais les chevalets, les brodequins et les poites, l'estrapade.
Tout cela ne me satisfaisait pas. Je résolus de me concentrer en moi-même et de demander aux surexcitations de l'ivresse la perfection du supplice. L'ivresse peut-elle être utilement appliquée à une question de recherche ? Voici ce que j'eus tout d'abord à déterminer. Si l'homme a l'état saint peut, grâce à une longue étude, concentrer sur un seul point toutes ses facultés, lui est-il possible de surexciter ces mêmes facultés de telle sorte que leur acuité se décuple, de donner au mécanisme intellectuel une telle force, une telle rapidité de mouvement, qu'un travail extraordinaire soit accompli? Mon but était celui-ci. Tandis que certains hommes boivent pour s'étourdir, pour oublier, je voulais, moi, boire pour me mieux souvenir, pour mieux diriger ma pensée sur le fait qui m'intéressait. Il s'agissait donc non seulement de résister à l'engourdissement qui s'empare de l'homme ivre, mais encore de transformer cet engourdissement en exaltation. Ici encore était un écueil à éviter. L'exaltation de l'ivresse est inconsciente. Le plus souvent, l'homme en état d'ébriété oublie qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait. Son intelligence, noyée dans la fumée de l'alcool, n'est plus maîtresse d'elle-même. La bête, selon l'expression d'un Français, Xavier de Maistre, domine absolument le moi. Et des actes de la bête, le moi n'est plus responsable, parce qu'il en a perdu la direction. Il n'en est pas moins vrai que chez l'homme exalté par l'ivresse se déploie une force inconnue à lui-même, que ses muscles, que ses nerfs acquièrent une vigueur bien supérieure à celle qu'il possédait à l'état normal. Tel homme ivre brisera une barre de fer sur laquelle au repos il n'eût même pas osé porter la main. Il y a donc là preuve évidente que, par l'absorption de l'alcool, le corps humain se trouve momentanément doué d'un ressort plus énergique, que la détente des forces se fait plus violente. Et c'était de cette énergie, de cette violence artificielle, que je me proposais de tirer parti. Mais non pas au hasard, non pas en permettant à mon âme d'abandonner ne fût-ce qu'un instant la direction de ses efforts, au contraire. Je voulais que cette plénitude de force exerçât son action principale sur le cerveau, que sous l'action de l'alcool, les fibres pensantes acquissent cette vigueur et cette énergie dont je devinais le développement, et qu'alors la pensée, appliquée uniquement au sujet auquel j'avais voué ma vie, s'élança plus vive et plus ardente sur la route qui m'était tracée. J'avais étudié la vengeance, il me restait à la rêver. Voici comment je fis. J'étais resté dans un petit village du Midi de la France, dont le nom importe peu. J'avais prétexté une indisposition et une grande fatigue, et Turnpike, sur mes instances, avait dû me laisser seul. Il partait pour l'Espagne, et il était désespéré de ne pas pouvoir m'emmener avec lui. Mais je résistais, il fallait que je fusse seul. Il fallait que je puisse étudier sur moi-même, sans qu'un témoin indiscret pût me voir ni m'entendre, les effets du vin ou de l'eau de vie. Je ne savais pas encore si, dans cet état intermédiaire entre la raison et la folie, je pouvais rester assez maître de moi-même pour ne point laisser échapper mon secret. Enfin, un soir, la tête libre, le cœur ferme, je m'enfermais dans ma chambre. J'avais devant moi 6 bouteilles d'un cru que j'avais choisi entre tous, le Clos Rondet. Vin léger, d'un rouge pâle, coulant net et sec, tamisant la lumière en rayons roses. Au goût un peu âpre en touchant le palais, mais d'un bouquet s'épanouissant tout à coup comme une fleur qui s'ouvre. Pourquoi l'avoir choisi? Voici. Les vins du Midi sont lourds. Il charge l'estomac et les fumées se dégagent lentement pendant que le travail de digestion fatigue l'ésophage. Ce que je voulais, c'était que le liquide par lui-même s'évapora en quelque sorte au moment de la dégustation et que sa volatilisation se traduisit rapidement par l'envoi des fumées au cerveau. Le chlorondais, que j'avais longuement étudié, répondait absolument à ces théories. J'étais prêt. J'avais pris plusieurs précautions importantes. Ma porte était solidement fermée. La chambre que j'occupais se trouvait dans une partie retirée de la maison, auprès d'une longue salle dans laquelle jamais personne ne pénétrait le soir. Il était environ 8 heures et tout était calme autour de moi. J'avais préparé un écriteau de papier blanc sur lequel j'avais inscrit 2 mots, « Turnpike, vengeance ». Parce que je craignais que dans la période violente de l'ivresse, le souvenir ne me fît défaut. Alors, m'étant installé dans un large fauteuil, la tête appuyée de telle sorte qu'elle ne put vaciller ni à droite ni à gauche, j'avais fixé l'écriteau juste en face de moi. En admettant même que l'ivresse me fit perdre le souvenir, il était bien certain qu'à un moment donné, mes yeux se porteraient sur l'écriteau, placé comme un point de repère sur la route du souvenir. J'étais moi-même resté dans l'ombre et l'écriteau était éclairé de chaque côté par une lampe munie d'un réflecteur dirigeant tous les rayons de lumière sur le papier blanc. Donc, toutes mes précautions étaient bien prises. Je me repliais sur moi-même et me mis à penser. À quoi ? Au but. À qui ? À lui et à elle. Puis je débouchais les 6 bouteilles placées à côté de ma main, et le regard attaché à l'écriteau, je commençais à boire. J'avais consulté les palpitations de mon bras, j'étais absolument calme. Je buvais lentement, gourmet. Le vin tombait goutte à goutte dans mon gosier. Je n'avais pas voulu qu'une absorption trop brusque déterminât des désordres cérébraux trop rapides. Lorsque la seconde bouteille fut vide, je sentis un vague engourdissement s'emparer de moi. Je ne résistais pas tout d'abord. Quelque chose en moi ne subissait pas l'influence du vin, et comme je l'avais déjà constaté, suivant curieusement les premiers développements du phénomène qui se produisait. À la 3e bouteille, un bourdonnement tinta dans mes oreilles. Il y eut une minute, oh, minute terrible, où je sentis que je m'abandonnais moi-même. Une prostration générale me brisa, je perdis le sens de ma propre existence. Mais un ressort se tendit violemment, c'était en quelque sorte instinctif. C'était une dernière lueur de volonté qui protestait contre l'obscurité qui m'envahissait et m'entourait. J'ouvris violemment les yeux. L'écriteau était devant moi, mais non plus blanc comme je l'avais tout à l'heure, mais rouge. J'étendis la main et je bus encore. Alors les 2 mots, Turnpike, vengeance, se tordirent comme des serpents de feu au milieu d'une plaque de sang. Je voulais ressaisir les lettres et les replacer dans leur position normale, mais elles glissaient, tortillées en couleuvre. Les mots s'allongeaient à perte de vue, et de chaque côté de la ligne brillante que formaient les traits, 2 ruisseaux de sang coulaient, roulaient et glissaient. J'aurais voulu m'élancer, une forme invincible me poussait en avant, mes ongles se crispèrent sur les bras du fauteuil, et je dis à haute voix, par un dernier effort d'énergie, « Quelle sera ma vengeance ?» Et je bus encore. Alors, devant mes yeux, tourbillonnèrent de nouvelles vagues de sang. C'était un rhombus vertigineux, rouge, rouge, ardent. Il me semblait que ce sang eût une odeur et m'enivra lui-même. Et quand je portais à mes lèvres la dernière bouteille, j'aspirais voluptueusement le liquide qui avait un goût de sang. Quand je revins à moi, j'étais toujours assis dans le fauteuil, la tête penchée en arrière. L'écriteau était toujours blanc, les lettres toujours noires. « Bon, le vin ne vaut rien, me dis-je. J'essaierai l'eau de vie. »